Société avec Nick Payne.
Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Nous allons, alors vraiment, je dis ça chaque semaine, mais là, il y a beaucoup de sujets et des sujets vastes, plein de couches, de profondeur, de largeur, bien sûr, desquels nous allons vouloir parler cette semaine avec Rémi Villemur, qui est en studio, doctorant en sociologie. Bonjour Rémi Villemur.
Bonjour Nick Payne.
Et Frédéric Lapointe, lui, est quelque part en route vers Chappais, je crois, ou en tout cas, vous êtes loin, Frédéric Lapointe, président du Mouvement national des Québécois.
Les cloches sonnent à la tuque en ce moment même.
Ah oui, c'est vrai, pour évidemment avertir le début de l'émission, les gens que la société commence, sans doute.
Sans doute.
Bon, c'est ça, ou c'est pour votre arrivée dans la bourgade. On vous salue comme le général de Gaulle autrefois, le long du chemin du roi, sans doute, Frédéric Lapointe.
Je pense pas que le général de Gaulle est allé jusqu'à la tuque, par contre.
Non, ni Chappais.
Non,
il n'est pas parti. Il n'a pas eu le temps de s'y rendre, en tout cas. À un moment donné, il est reparti, peut-être même un peu plus vite que prévu. On en reparlera sans doute. C'est une histoire fascinante, ça, d'ailleurs. Je commence avec vous, Frédéric Lapointe, tiens, puisque vous êtes celui, entre Rémi Villemur et vous, qui avait sans doute mieux le plus connu à l'âge adulte, hein, bien sûr, Brian Mulroney, le premier ministre, et puis l'homme... Le premier ministre à la retraite ensuite, qui a continué d'être présent de façon, plus ou moins forte là, dans l'espace et dans le débat public par la suite. Alors, parce qu'il faut parler de Brian Mulroney, donc, pour ceux qui auraient été en dessous d'une roche dans les derniers jours, il est décédé cette semaine à l'âge de 84 ans. Brian Mulroney, donc, le 18e premier ministre du Canada. Il a été en fonction du 17 septembre 1984, quelque part dans les années du beau risque, jusqu'au 25 juin 1993, quelque part juste pendant la période du référendum sur l'accord de Charlottetown et presque à l'aube du référendum de 1995. Je fais exprès pour parler de ces deux événements-là, Frédéric Lapointe, parce que c'est au cœur aussi de la carrière de Brian Mulroney, sans aucun doute. Il est un acteur principal dans tout l'épisode de l'accord du lac Meech, ce qui l'a précédé et ce qui lui a succédé. Mais donc, je vous parle de... Parlez-nous de Brian Mulroney. Qu'est-ce que vous retenez de sa carrière, de son passage en politique?
Ben, c'est quelqu'un qui construit des ponts de façon systématique. Et c'est un de mes premiers souvenirs en politique à l'âge de 9 ou 10 ans. C'est le congrès de la course à la chefferie, le deuxième auquel participe Brian Mulroney, en 1982 ou en 1983, mon souvenir est vague. Et il y a 11 candidats dans ce congrès là, qui doit se dérouler dans une aréna quelque part, vraiment à l'ancienne. Vous pouvez imaginer les pancartes, les fanions, les
la
couleurs.
Fumée.
La fumée, les délégués qui se déplacent d'un côté à l'autre. Là, c'est un espèce de loft story, mais avec une foule immense. Et Brian Mulroney jamais mené cette course à la chefferie, enfin, durant le congrès, mais c'est en ralliant vers lui la majorité ou l'essentiel des candidats l'un après l'autre, où à la fin, il finit par coiffer Joe Clark et par la suite devenir premier ministre du Canada. Tous les témoignages que vous avez entendus cette semaine témoignent de la même habitude politique qui est de toujours tendre l'oreille, de toujours appeler que ce soit des gens de sa famille politique ou des gens d'autres familles politiques. Alors, cette capacité de tendre la main, de tendre l'oreille, a contribué à avoir de nombreux succès, réussir des accords, non pas sur le climat, là, mais sur les pluies acides avec les États-Unis, l'accord de libre-échange, mais aussi, faut le dire, des accords extrêmement complexes à établir, là, comme l'accord du lac Meech ou la tentative de dernière minute, là, l'accord de Charlottetown. Un autre premier ministre aurait probablement ni eu l'attitude, la volonté, ni le talent de se lancer dans des entreprises là, aussi complexes. Je pense que c'est un premier ministre qui passe à l'histoire dans une certaine mesure par les transformations qu'il a apportées au Canada. Malheureusement, il s'est un peu entaché lui-même par des enjeux d'intégrité. Mais
on va y arriver. On va y venir.
Sa contribution, elle est significative.
Oui, oui, puis on va venir à la substance politique et à ces épisodes-là aussi. J'allais dire, les problèmes éthiques, tiens, disons-le comme ça. Mais parlons, je reste un instant avec vous encore, Frédéric Lapointe, parlons de l'homme, parce que pour ceux qui n'ont pas connu cette époque ou cet homme politique, c'était un phénomène, Mulroney. C'est un homme de grand charisme qui a un peu jailli comme ça lorsqu'il est devenu chef du Parti conservateur à l'époque. C'est pas un homme politique ordinaire, si j'ose dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Ouais, en termes de charisme, c'est une question de goût, j'imagine. Certains préfèrent d'autres styles oratoires ou d'autres préfèrent des démonstrations de force plus effective, plus éloquente. C'était pas son style. Oui, il peut avoir des discours emportés, mais vraiment, c'est sa capacité de bâtir des coalitions, de réussir à amener des gens en désaccord à se camper, non pas sur leurs différences, mais à se camper sur la recherche de l'intérêt commun. C'est sa pratique d'avocat, au fond, là, qui précédemment, hein, un avocat, un négociateur de convention collective, c'est ce qu'il faisait comme avocat au début de sa carrière. Et donc, il devait avoir la personnalité qu'il mène là, mais ça, disons que sa déformation professionnelle d'avocat le préparait pour sa carrière de politique.
Oui, en vous posant la question, je pensais à cette capacité qu'il avait de faire se parler des gens qui n'étaient pas, à prime abord, très, très sympathiques les uns envers les autres, hein, de rallier aussi les souverainistes québécois en bonne partie, d'être à l'aise avec... à l'Élysée avec François Mitterrand ou dans une binerie sur la Côte-Nord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un, après les années, Pierre-Éliott Trudeau, hein, cet homme plutôt baveux, austère, à la limite malveillant d'une certaine façon à bien des égards. Mulroney, on sentait plutôt une sorte de bonhomie ou de bonne volonté. C'est pas un premier ministre canadien qui s'est démarqué par exemple, par une volonté plus ou moins évidente de remettre le Québec à sa place, voyez?
Non, c'est plutôt le contraire, mais en même temps, les personnages répondent aux échos de l'histoire. N'importe quel premier ministre après Pierre-Éliott Trudeau, se prédestinait à avoir un style plus consensuel et à être plus ouvert à la question québécoise. Encore que Brian Mulroney, à cet égard, lorsqu'on considère tout l'ensemble des discours qui se tiennent chez les anglophones au Québec, on peut dire que l'anglophone francophile qu'est Brian Mulroney était à cet égard très très empathique, très familier avec la condition du Québec, partageait les angoisses existentielles, le désir de reconnaissance, le désir d'avoir des garanties constitutionnelles. L'accord du Lac-Meech vise à réintégrer le Québec dans l'honneur et l'enthousiasme, mais il y a aussi un contenu, c'est pas que des symboles, il y a un contenu à l'accord du Lac-Meech. Il y avait des mesures là-dedans qui étaient très importantes, hein, pour assurer l'avenir du Canada français, du Québec dans le Canada, que ce soit les juges à la Cour suprême, la clause de société distincte et trois autres dont le souvenir m'échappe.
Oui, oui, c'est peut-être parce que c'était un petit peu moins, ça vous a moins enthousiasmé, vous, à l'époque, Frédéric Lapointe, je ne sais pas. Rémi Villemur, vous êtes plus jeune. Qu'est-ce que ça vous disait jusqu'à cette semaine, vous, Brian Mulroney?
Pour situer les auditeurs de façon plus précise dans le temps, en 1993, quand il a quitté le pouvoir, j'étais sans doute un projet, puisqu'un an plus tard, j'allais naître. Donc, non seulement j'étais plus jeune, j'ai pas connu son règne, mais j'étais sur le point d'être conçu.
Et vous avez étudié l'histoire.
Oui. Mulroney, pour moi, c'est... Bon, déjà, il faut quand même... On sait quoi, il est mort jeudi.
Oui.
On est samedi. Je pense qu'on peut déjà commencer à relativiser dans la mesure où, effectivement, c'était quelqu'un d'extrêmement charmant, de conciliateur, quelqu'un qui avait en tête le grand compromis, mais Faudrait aussi ajouter qu'il n'aurait pas remporté la course à la chefferie du Parti conservateur sans dire aux militants et aux Canadiens de façon très claire qu'il allait faire la chasse aux séparatistes dans les rues et dans les ruelles.
Ah ben ça, c'est entendu. Hein? Mais il faut dire que quand on a la position qui était la sienne, c'est-à-dire de vouloir réintégrer le Québec, alors je répète les mots prononcés par tous, évidemment, depuis toujours, dans l'honneur et l'enthousiasme que le Québec réintègre.
Ce sont les mots de Bouchard, ça, par contre.
Oui, c'est ça. Mais quand on compare cette démarche de Mulroney avec à quiconque avant ou après, c'est quand
évident.
Même inusité.
C'est inusité,
on
mais
voulait
Frédéric
vraiment
Lapointe...
faire des compromis pour le Québec, là, pour vrai.
Oui, mais Frédéric Lapointe fait bien de souligner
qu'il fallait bien, d'un autre côté, dire on va chasser les séparatistes. Hein?
Oui, mais les séparatistes étaient au pouvoir à Québec, donc c'était une drôle de façon de commencer. Enfin, mais moi, je pense qu'il il lui fallait la faveur du Canada anglais. Et les Canadiens anglais, d'ailleurs, dans les années qui ont suivi, ont démontré que c'est ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire quelqu'un qui allait quand même se tenir tout droit. Et d'ailleurs, Frédéric Lapointe fait bien de souligner qu'à peu près n'importe quel élu qui aurait suivi le règne de Trudeau se serait comporté de cette façon-là, parce qu'on en était rendu là, au Canada, en tout cas certainement du point de vue du Québec. Et les débuts de la collaboration entre Lévesque et Mulroney, c'est évidemment ceux dont on se souvient, c'est-à-dire on se rappelle de cette espèce de bonhomie, de gentillesse entre les deux, mais assez rapidement, dans le Canada anglais, on s'est mis à reprocher à Mulroney d'agir de cette façon-là. Hein. Ça n'a pas pris un an, deux ans. Là. Dans les premiers mois, on s'est dit, coudonc, on s'est rendu chumé-chumé. Et ça faisait pas l'affaire des Canadiens anglais, qui soudainement étaient nostalgiques de cette espèce d'esprit bagarreur, malin de la part de Trudeau.
Mais c'était peut-être un peu à courte vue, parce que les effets sont immédiats.
Oui,
René Lévesque choisit le beau risque. Le souverainiste, le chef, le fondateur du Parti québécois dit « Bon, ben allez, avec mon ami Brian, c'est pas ses mots, mais ça avait l'air de ça un peu, peut-être qu'on peut essayer de réintégrer la Constitution canadienne, faute de mieux. » C'est quand même quelque chose.
Tout à fait, mais c'était un visionnaire, c'était quelqu'un qui voyait... 3-4 coups en avant. D'ailleurs, une anecdote, ça m'a été permis de... J'ai appris ça cette semaine en relisant certains livres, là. Mulroney, en 87, il voit que le Parti québécois est en déroute, voit que Pierre-Marc Johnson n'est pas René Lévesque et qu'il risque d'avoir un changement de garde.
Et que Parizeau s'en vient. Hein?
Et que Parizeau s'en vient. Donc, vous m'avez volé mon punch, pas grave. il voyait Parizeau arriver, et non pas arriver, il faudrait dire revenir, repousser. Ouais. Et pour essayer d'éviter que cet homme ne prenne non seulement le pouvoir au Parti québécois, fasse l'indépendance, il lui a offert un rôle de sénateur. Donc, il a dit à M. Parizeau, écoutez, sénateur, est-ce que ça vous intéresse? Puis Jacques Parizeau n'était pas un imbécile, donc voyait très bien venir Mulroney et quand même jouer le jeu. Il dit, mais c'est quoi exactement que vous me demanderiez? Il dit, ah, pas du tout, rien du tout, vous seriez indépendant, vous pourriez même être indépendantiste. Et Parizeau a refusé parce que Mulroney comprenait, savait très bien, voyait bien que Parizeau était l'homme de 95 qui s'en venait.
Mais ça, au-delà de la stratégie, ce que vous venez de nous dire est absolument fascinant et ça dénote, ça fait quand même, ça met en exergue une forme d'ouverture à l'endroit de... une réelle volonté d'ouverture à l'endroit du Québec. Là. Il faut dire à un souverainiste, vous serez souverainiste sénateur. C'est tout à fait particulier.
Oui,
on n'imagine ni Harper, ni Trudeau fils, ni père, ni Poilievre, ni personne faire ce genre de
Mais choses. Imaginez même le cran que ça prenait pour parler à... La proposition était faite à Jacques Parizeau, là, qui est dans la fonction publique depuis les années 60. Conseil du Trésor, la nationalisation de l'hydroélectricité, un homme de grande réalisation, puis on lui propose de devenir sénateur. Tu sais, c'est quand même le
ben
siège
oui, comme,
de
comme
la
Jean
fin.
Lapointe ou Jacques Demers.
Jacques Demers, exactement.
Oui.
On a un peu plus
qu'on salue et qu'on aime beaucoup, mais évidemment, c'est pas les mêmes états de service que Parizeau. Frédéric Lapointe, vous avez évoqué aussi la part d'ombre. Hein? Nous avons tous, en tout cas, moi, j'ai été assez stupéfait dans les années où on a appris donc ces tractations puis ces transactions financières entre Mulroney et l'homme d'affaires germano-canadien Karl-Heinz Schreiber, hein, dans le dossier Airbus, je crois. Non, c'est pas ce dossier-là. Oui, peut-être, vous me le direz, Frédéric Lapointe. Et donc, alors là, on a les images de M. Mulroney au je ne sais combien-tième étage d'un hôtel avec la valise, avec l'argent. Je ne sais plus ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai là-dedans, mais en tout cas, chose certaine, M. Mulroney a été trouvé par le juge Oliphant en défaut éthique au minimum là, dans cette histoire-là. C'est étonnant. Est-ce que ça l'est ou ça ne l'est pas pour vous, cette part d'ombre assez forte chez Mulroney aussi, Frédéric Lapointe?
Oui, ben les grands hommes ont des parts d'ombre. Ils sont pas obligés de l'amener sur la scène sur la scène publique ou de l'intégrer là, à leur action politique. Manifestement, Brian Mulroney a fauté. Monsieur Karl-Heinz Schreiber était de mémoire un intermédiaire courant pour des ventes d'armes entre pays et si on se souvient bien, les ventes d'armes dans les années 80 ou 70, c'est pas nécessairement les affaires les plus propres qui se réalisaient là, à l'échelle du globe. Non seulement Monsieur Mulroney lui-même a été obtenir des enveloppes qui contenaient pas des 500 ou des 1000 $
225 000 et 300 000, ouais.
Exact. Qui
C'est-à-dire qui 225 000 selon Mulroney, 300 000 selon M. Schreiber. Mais bon, bref, oui, c'est ça. C'est pas 10 piastres. C'est pas les enveloppes du maire Vaillancourt.
Non, exact. C'est même pas des émoluments pour des conseils d'avocats privés. C'est de l'ordre de grandeur d'un pot de vin sur un pourcentage de contrat. Monsieur Mulroney s'en est sorti par une poursuite préventive de 50 millions de dollars à l'encontre de la GRC et du gouvernement canadien parce que l'enquête progressait rapidement. Il y avait des comptes en Suisse qui avaient été identifiés comme étant fort probablement propriété de Monsieur Mulroney avec des niveaux de montant qui n'avaient aucune espèce d'explication logique. Et donc, tout ceci sentait extrêmement mauvais. J'ajoute qu'à l'époque, le premier ministre du Canada, Brian Mulroney, recevait un salaire du Parti conservateur équivalent ou supérieur à son salaire de premier ministre et qu'il n'y avait pas non plus de limite au financement que les entreprises pouvaient verser à un parti politique au Canada à l'époque. Ça s'est assaini depuis, hein, avec les scandales entourant Mulroney. Jean Chrétien a assaini à travers différentes lois le financement politique au niveau fédéral. Ça pourra vous surprendre, mais que voulez-vous? Quand vous arrivez après un premier ministre qui a été entaché de ces questions-là, le premier suivant n'a pas d'autre choix que de corriger la situation. Donc, même sur ce plan, à travers sa faute, hein, si on veut le présenter de façon positive, à travers sa faute, Brian Mulroney a entraîné une forme de nettoyage là, des mœurs politiques au niveau du financement politique. Mais il y en a un qui a pris le modèle, malheureusement pour le Québec, qui a pris le modèle de Brian Mulroney des années 80, c'est Jean Charest.
Oui, ben c'est Jean Charest, qui était son ministre, bien sûr.
Oui, exact.
Comme Lucien Bouchard aussi, pour les plus jeunes, là, c'était vraiment un gouvernement avec des... Alors, je parle pas de Charest, bien sûr, mais il y avait des souverainistes, hein? Il y avait Marcel Masse, enfin, au minimum des nationalistes québécois là-dedans.
Ah oh non, ils étaient souverainistes.
Oui,
non,
bon,
ils
voilà.
Ils étaient souverainistes assumés, ils ont mis le temps en 95, d'ailleurs.
Et pour le problème éthique dont je parlais à l'instant, c'était bel et bien dans l'affaire de l'achat d'avions Airbus, là. C'était bel et bien voilà. Le dossier Airbus. Rémi Villemur, un autre débat que soulève le décès de M. Mulroney, pour les plus jeunes peut-être, c'est la notion du progressisme conservateur ou du conservatisme progressiste, je ne sais trop, c'était le nom de son parti. Il se disait lui-même progressiste conservateur. Il s'est démarqué sur la scène internationale par son combat qu'il a remporté contre l'apartheid, d'ailleurs. Je voyais des militants de Québec solidaire aujourd'hui ou hier écrire sur les réseaux sociaux, ben voyons donc, c'est impossible, des conservateurs progressistes. Ils étaient sincères en disant ça. Pour eux, les conservateurs sont forcément méchants.
Ben, c'est que le bien ne se mélange pas avec le mal.
C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça se pourrait aujourd'hui? Est-ce qu'on va revenir à ce genre de nuances ou d'amalgames? Est-ce que ça existe des conservateurs, par exemple, peut-être que je vous souffle la réponse, mais qui seraient sur le plan économique plus conservateurs et plus progressistes sur les questions sociales ou sociétales? Je ne sais pas, c'était un peu ça, Mulroney, d'ailleurs.
Il me semble que c'est ce qu'on a connu après le passage de Stephen Harper en politique. Tous les chefs qui se sont essayés au Parti conservateur, c'était des gens qui étaient plutôt progressistes, en tout cas du point de vue conservateur classique, là, et ce qu'on avait connu au Canada. Et là, on a Poilievre qui a ramené un petit peu la barque du côté du conservatisme. Je sais pas, il faudra voir exactement. T'sais, là, en ce moment, à Ottawa, il faut dire que l'offre progressiste est assez saturée. Là. Il y a du stock. Là,
ça serait vraiment pas payant. Là,
c'est-à-dire qu'effectivement, il faut combler un vide, il faut remplir des places. Et là, tout semble occupé. C'est comme la chaise musicale, puis il y a trop de progressistes debout pour passer de chaise. Là. On dirait que c'est pas mal ça.
Frédéric Lapointe, le parti progressiste conservateur qui a disparu lors de la fusion avec l'Alliance canadienne pour devenir le Parti conservateur du Canada. Est-ce qu'on pourrait imaginer un tel concept à notre époque?
Oui. c'est difficile parce que, au fond, le Parti conservateur que nous connaissons aujourd'hui est davantage l'héritier du Reform Party, qui est le parti de Preston Manning, issu de l'espèce de mécontentement chronique de l'Ouest canadien, d'abord à l'endroit du Parti libéral, hein, le parti de l'élite laurentienne Québec-Ontario, mais ce mécontentement qui s'est maintenu et qui s'est cristallisé autour de la gouvernance de Brian Mulroney. Brian Mulroney qui, on peut pas lui reprocher de pas avoir dépensé tout son capital politique. Hein. Il a été là 9 ans, il a fait des...
Les comptes étaient à zéro bien avant la fin de son mandat. Hein, pour ceux qui s'en souviennent, c'était pas facile pour les progressistes conservateurs. Les taux d'approbation étaient au plus bas, il y avait des scandales.
À 93, donc, je pense, l'élection, c'est deux députés. Hein.
Ah oui, ils se sont fait pulvériser. Ouais. Il ne restait justement que Jean Charest. Mm-hmm. Et c'est une députée dans les Maritimes, là, ou est-ce que c'était Kim Campbell? Je ne sais plus.
Non, c'est Mme White dans Saint-Jean. Saint-John, Nouveau-Brunswick. Ah. Et le parti de Preston Manning avait, si mon souvenir est bon, s'il n'a pas eu l'opposition officielle, l'a eu par la suite, hein, 50, 60 députés, l'essentiel de l'Alberta, de la Saskatchewan et une partie...
Il était très, très, très important, en tout cas, lorsque le Bloc québécois était l'opposition officielle de Sa Majesté aussi.
Exact. Et donc, la coalition conservatrice s'est rompue. Hein. Le Québec est parti d'un côté, l'Ouest est parti de l'autre. Et à moins que un parti conservateur ne s'appuie massivement sur les nationalistes québécois, c'est forcément le pôle de l'Ouest qui va dominer la teinte ou la doctrine du parti conservateur actuel. Et c'est ce qu'on voit avec Pierre Poilievre. Cela dit, avec l'usure du gouvernement Trudeau, même un parti clairement conservateur là, a toutes les chances de l'emporter.
Rémi Villemur, on a beaucoup entendu dans les suites du décès de M. Mulroney ce commentaire. Ah ben, il n'y en a plus des politiciens de cette stature. Hein? C'est une autre époque. Et puis bon, la nostalgie qu'il y avait dans ces commentaires-là, évidemment. Est-ce qu'on exagère? Est-ce que c'est par effet de prise de recul, hein? le temps fait bien les choses, puis grandit parfois les hommes, ou est-ce qu'effectivement, il y a une baisse de niveau en politique, c'est possible aussi?
Tout est possible, mais écoutez, là, on a de la difficulté à prévoir ce qui va se passer dans deux semaines, et là, on serait là si convaincu que dans 10 ans, il n'y aura pas de... Non. Donc, on ne le sait pas, c'est une réponse plate, j'en conviens, mais moi, je ne vois pas pourquoi n'émergerait pas une... Surtout dans un contexte où... Par exemple, le mouvement souverainiste continuerait de croître au Québec et qu'on se rapprocherait d'un contexte semblable à celui du début des années 80 ou à la fin des années 80. Je vois pas pourquoi n'émergerait pas au Canada une figure un peu semblable, c'est-à-dire un homme qui serait tenté de tendre, ou une femme, de tendre la main aux Québécois, comme Mulroney l'a fait. Et là, l'histoire est bien faite puisque le prochain premier ministre du Canada ne sera pas Justin Trudeau. Ça sera pas un homme de la trempe de Mulroney non plus, à moins que n'émerge au NPD quelqu'un qu'on n'attend pas en ce moment. Mais je vois pas pourquoi, non. Je pense que l'histoire est bien faite. On revient à ce genre de mécanisme-là. Mais alors, il va falloir étudier la fin du règne de Mulroney et comprendre ce qui s'est passé. Mulroney était rempli de bonnes intentions. Mais c'est que le Canada n'est pas fait pour les Québécois. C'est ce qu'on a réalisé. Même avec...
un anglophone. Sa mère, c'est sa mère, ouais. Ou son père. Bon, voilà. Enfin, c'était quelqu'un qui était parfaitement... C'était une incarnation du rêve canadien, hein, Mulroney.
Un francophone, vous voulez dire.
Oui, bien, il était très anglophone aussi.
Il était anglophone et francophone. Oui, ouais. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais on aurait pu penser que ça fonctionnerait, que c'était ce qu'il fallait. En théorie, c'est ce qu'il fallait. Quelqu'un qui tende la main, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Pour des choses qu'il ne contrôlait pas. Hein, l'accord du Lac Meech, je veux dire, j'entendais cette semaine Lucien Bouchard, Jean Charest dire sur la place publique c'est une grande réussite, mais ça dépend de votre point de vue peut-être.
C'est un immense échec.
C'est un immense échec, mais c'est pas Mulroney qui a fait en sorte que ça s'est pas produit. C'est parce que le Canada n'est pas fait pour les Québécois. Donc, c'est ce qui va se produire un jour quand le mouvement souverainiste va monter et qu'un homme va émerger comme ça sur la scène fédérale, on va arriver au même résultat.
Frédéric Lapointe, terminons justement sur le sujet Mulroney avec ça. Là. C'est vraiment, s'il faut résumer Brian Mulroney à une chose, c'est bien donc, dans un premier temps, sa volonté de faire en sorte que le Québec signe la Constitution canadienne, mais à des conditions qui le satisfont, ce qui est vraiment une ambition immense quand on regarde ça vu d'aujourd'hui. Et puis bon, l'accord du Lac-Miche survient. Il est considéré comme une offre beaucoup trop modeste par les souverainistes, évidemment. Jacques Parizeau combattra cet accord. Néanmoins, Mulroney et Bourassa, son partenaire québécois, persistent. Et puis, tout le monde se casse la gueule magistralement. C'est une immense ambition et c'est un très, très, très grand échec pour un premier ministre canadien, ça, non?
Oui, bien, il faut se souvenir qu'il y avait quand même un suspense incroyable. Là, hein? Les gens ont signé en 87, les législatures ont 3 ans pour ratifier l'entente. Le processus traîne parce qu'il y a des élections, des leaders qui changent d'opinion à Terre-Neuve, au Manitoba.
Vous avez et Trudeau et Chrétien qui sont en tournée pour expliquer que Meach, ce sera la fin du Canada tel qu'on le connaît, qu'il ne faut pas ratifier ça.
Exact. Donc, Trudeau en particulier va torpiller l'accord en donnant tout son prestige aux opposants et en provoquant des changements de vue à Terre-Neuve. N'oublions pas également le rôle, c'est bête, c'est procédurier et symbolique, mais le Manitoba, à la toute fin, avait besoin de l'accord unanime du Parlement pour accélérer la procédure de ratification.
Et là, Elijah Harper,
Elijah Harper a levé sa plume, avait son chapeau sur la tête et l'accord a déraillé de la sorte. Et ensuite, Terre-Neuve n'a pas ratifié parce qu'il n'avait plus à le faire.
C'est une symbolique épouvantable quand on y pense. C'est-à-dire que c'est l'Autochtone du Manitoba qui torpille la volonté du Québec de réintégrer le Canada formellement. C'est quelque chose quand même du point de vue symbolique et historique, ça.
Et c'est quelque chose qu'un premier ministre du Canada ne peut pas contrôler. Et je me doute bien qu'il ne peut même pas aspirer à contrôler ça. Et c'est encore plus difficile aujourd'hui en 2024 quand la dimension réconciliation entre les deux peuples fondateurs c'est devenu une histoire oubliée par la plupart de la population. Même l'idée que le Canada constitue une nation distincte des États-Unis depuis le libre-échange, c'est un legs de Brian Mulroney, il n'y a pas une telle chose qu'une identité canadienne très forte pour s'opposer à ce que font les États-Unis. Au contraire, les doctrines, la propagande, les perspectives américaines sont encore plus présentes que jamais à l'échelle du Canada. Alors, ce conflit séculaire où on voudrait une réconciliation entre Canadiens français et Canadiens anglais, c'est l'histoire ancienne pour la plupart des communautés au Canada.
Rémi Villemur, est-ce que c'est l'histoire ancienne où on considère que... Ben, c'est l'histoire ancienne parce que le Québec a perdu, puis c'est réglé. C'est désormais le Canada tel qu'on le conçoit là-bas qui a gagné. Est-ce que c'est comme ça qu'on voit les choses, d'après vous? Et de ce fait, Mulroney est le témoin d'une époque...
Le Québec est mort depuis la conquête, mais pris de secousses. Donc, une fois de temps en temps, puis la dernière secousse date du référendum de 95 et on est en train de voir le corps se préparer à émettre une autre secousse. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense pas que c'est la mort du Québec indépendant ces années-là. On revient à ça, heureusement.
Intéressant. Alors, voilà pour Brian Mulroney. Donc, évidemment, toutes nos sympathies à sa famille. Aux gens qui travaillaient avec lui, c'était le président du conseil d'administration encore, hein, de Québécois.
À 85 ans.
Oui. Alors, bref. Fait à noter Lucien Bouchard, hein, cette semaine, qui nous a expliqué qu'il s'était réconcilié avec lui.
Ouais.
Donc, dans la dernière année de sa vie, M. Mulroney, c'est tout à fait...
Ben, et même, si je peux ajouter quelque chose, Lucien Bouchard a une très mauvaise réputation chez beaucoup de nationalistes. Et le fait qu'il soit resté en très mauvais terme pendant de très longues années, tend à démontrer, ou en tout cas démontrer qu'un petit dé, que Lucien Bouchard n'est peut-être pas le traître qu'on pense qu'il était. Parce que moi, j'aurais pensé qu'il était chumé avec Brian Mulroney. Et non, je pense que Lucien Bouchard a encore des principes.
Alors, cette semaine, ce jugement très attendu de la Cour d'appel dans le dossier, bien sûr, de la contestation de la loi 21, de sa constitutionnalité. Parlons à quelqu'un qui nous a rejoint au téléphone, qui est grippé, donc on va le ménager. Bonjour, Patrick Taillon.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de nous parler de ce jugement très important qui a été un peu pulvérisé là, par le décès de M. Mulroney. On ne parlait que de ça avant d'apprendre la nouvelle sur l'ex-premier ministre. Donc, le jugement a été rendu et il semble que ce soit une victoire, j'allais dire à plate couture, presque sur toute la ligne pour pour ceux qui se défendaient là-dedans. Patrick Taillon, pouvez-vous nous en dire plus?
Oui, c'est clairement une confirmation de la validité de la loi. dans le contexte où le Québec utilise cette protection spéciale qui est la dérogation, la disposition de souveraineté parlementaire. Mais en première instance, il y avait eu le même genre de victoire, mais avec une exception pour la communauté anglophone de Montréal.
Qui faisait beaucoup sourciller, hein? C'est-à-dire que le juge Blanchard avait dit, vu que la Constitution reconnaît aux anglophones le droit de s'instruire dans leur langue et peut-être aussi de gérer leur centre de services scolaires. Et puis là, finalement, il disait, et pourquoi pas de se soustraire à une loi comme la loi 21, ce qui avait étonné beaucoup. Mais on dirait qu'avec le temps, on s'était habitué à cette chose-là, diriez-vous, et là, on est à nouveau étonné parce qu'on revient là-dessus?
Oui, bon, on s'y était pas vraiment habitué parce qu'immédiatement, Québec avait obtenu une décision provisoire pour que la loi 21 s'applique aux commissions scolaires anglophones en attendant la fin du litige. Donc, il faut distinguer les décisions au fond.
Ah oui.
Celle qu'on a aujourd'hui, jeudi, c'était une décision au fond. Mais à travers une longue saga judiciaire, il y a des décisions provisoires ou interlocutoires qui sont des décisions rendues tout simplement, là, c'est des mots un peu techniques, mais ça veut dire qu'est-ce qu'on fait en attendant.
Oui, c'est
et
ça.
Donc, à qu'est-ce qu'on fait en attendant, la loi s'appliquait chez les anglophones, là, elle continuera à s'appliquer. Et c'est une bonne nouvelle pour le Québec en général, là, ça dépasse la question de la loi 21. C'est une autre chose qu'il y ait un peu. Oui, il y a des écoles en anglais au Québec, c'est un droit constitutionnel, mais qu'il y a une certaine unité dans le système scolaire et que le législateur québécois soit capable de légiférer pour toutes les écoles du Québec sans craindre que la communauté anglophone décide de se soustraire à ces lois-là, ça me semble être une excellente nouvelle.
Vous avez, Patrick Taillon, en début d'entrevue, employé une expression qui se retrouve un peu partout dans ce jugement de 300 pages, clause ou disposition de souveraineté parlementaire. Hein?
Oui.
À l'origine, on a conféré à cette expression-là un caractère peut-être militant, ou c'est-à-dire on disait, ben bon, oui, ça c'est ceux qui veulent nous faire croire qu'il y a une forme de lutte entre le pouvoir des juges et celui du gouvernement, celui de l'Assemblée nationale. Il faut quand même continuer de parler de la clause dérogatoire ou la disposition de dérogation. Là, maintenant, il semble que l'expression disposition de souveraineté parlementaire soit passée dans le langage. On va désormais pouvoir parler de la disposition de souveraineté parlementaire parce que ça illustre bien le fait qu'ici, par exemple, les élus de l'Assemblée nationale ont le dernier mot. Ils sont capables de soustraire une loi au pouvoir des juges, au fond, si vous voulez. Est-ce que j'exagère? Est-ce que ça vient d'arriver, cette chose-là, ou je me trompe dans ma lecture?
Il y a plusieurs manières de nommer la même chose. Et effectivement, ceux qui utilisent disposition de souveraineté parlementaire, généralement, vont vouloir mettre l'accent sur la part de noblesse que comporte l'article 33.
Oui.
Et ceux qui utilisent le mot disposition de dérogation vont vouloir mettre l'accent sur le...
Il illustre bien qu'on déroge, hein? Mais est-ce que c'est pas nouveau que ça se retrouve maintenant dans un jugement de façon très, très, comme ça, décomplexé, je dirais?
Bien, pour moi, ça reflète surtout le ton du jugement, qui est un ton très apaisé, qui cherche à traiter la question sans mettre de l'huile sur le feu, sans s'enfarger sur des guerres de mots, sans faire des condamnations morales de la loi un peu gratuites comme faisait le juge de première instance. Dès le début, on nous donne l'heure juste sur ce que la loi fait et ne fait pas. Là où le juge de première instance définissait la laïcité comme tout ce qui était l'anti-religion.
Ouais.
Ben non, la Cour d'appel a compris que non, la laïcité, c'est un modèle d'aménagement des relations entre la religion et l'État, et ça comprend le droit des citoyens de pratiquer leur religion, et ça l'aménage, et par moments, c'est un modèle qui va s'accompagner de certaines restrictions, parce que dans la relation entre l'État et le citoyen, il y a une disproportion des forces, et quand vous représentez l'État, et qu'en plus, vous avez une arme ou un pouvoir d'autorité ou de coercition, ben, le modèle de laïcité à la québécoise dit, ben, quand vous avez ce rapport de force inégal entre un représentant de l'État en situation d'autorité puis un citoyen qui est vraiment David contre Goliath, il faut préserver le droit du citoyen d'avoir des services neutres au détriment, certainement, de la de la liberté individuelle de celui qui travaille pour l'État. Cela dit, la décision de cour d'appel ne va pas au fond de ces questions-là parce qu'elle se limite à traiter un par un les arguments des opposants. Et dans les arguments des opposants, il y avait l'idée de faire sauter la digue ou de faire sauter la fortification, qui est la disposition de dérogation, qui empêche ce débat sur est-ce raisonnable ou pas d'encadrer les signes religieux. Mais n'empêche que là où le juge de première instance avait un préjugé, il supposait qu'il était impossible de défendre cette loi-là sans la dérogation. Il le disait, le mot impossible, et la Cour fait exprès un appel de lucidité, entre guillemets, pour bien montrer les excès de langage du juge de première instance. La Cour d'appel, elle ne préjuge de rien. Elle fait juste constater qu'en ce moment, il y a une disposition de dérogation, que ça a des effets. Et elle met la table pour la suite.
Oui, bien, c'est la question que j'allais vous poser, puis on va terminer là-dessus. On va vous laisser reposer votre voix, professeur Taillon. Est-ce que, compte tenu des étapes que nous franchissons dans ce dossier-là, est-ce qu'on peut imaginer, à ce moment-ci, une Cour suprême qui s'en irait dans l'autre sens et qui redéferait, détricoterait ce que vient de dire la Cour d'appel, ou en tout cas pour une part importante là, de ce qu'elle dit?
Deux ou trois indications qui ne sont que des indices, hein. ça ne garantit rien.
Ouais.
Mais d'abord, il y a un argumentaire très fort dans la décision de la Cour d'appel. On ne fait pas juste dire la dérogation est là, il faut la respecter. On dit le débat qui a déjà eu lieu en 1981-82, il n'y a pas de nouveaux arguments. Il a été refait en Cour suprême au moment de la réforme fin des années 80.
Le débat avait eu lieu parce que le gouvernement Lévesque avait systématiquement eu recours à la clause dans un geste politique, si on veut, pour montrer que, ben voilà, nous, on se soustrait à votre charte canadienne que vous avez adoptée sans notre consentement, etc., etc. Donc, la Cour en avait été saisie. Elle avait dit non, c'est correct de faire ça, c'est légal à tout le moins, ou en tout cas, c'est constitutionnel.
C'est ça. Et au fond, la Cour d'appel aujourd'hui, elle nous dit qu'il n'y a pas plus préventive, il n'y a pas une utilisation plus préventive et plus systématique que celle qu'a fait le gouvernement Lévesque au lendemain du rapatriement. Puis la Cour suprême a déjà été face à cela, face aux arguments pour et contre, et elle a déjà tranché.
Ouais.
Et donc là-dessus, la Cour d'appel, elle vient vraiment rendre la vie un peu plus difficile à la Cour suprême, mais la Cour suprême peut faire ce qu'elle veut. Deuxième élément, au sein de la Cour suprême, il y a encore des tensions. La Cour a été très divisée, je dirais, dans les 5-6 dernières années, où il y avait des juges, je simplifie un peu parce qu'il y a plein de nuances, mais il y avait quand même des juges, je mets une étiquette pour qu'on se comprenne, plus conservateurs, souvent associés à des nominations sous l'époque Harper, avec des juges très néo-progressistes, très individualistes, très souvent proches et nommés par le gouvernement Trudeau.
Mm-hmm.
Et dans les dernières années, il y avait systématiquement des divisions dans les jugements et on voyait que c'était toujours pas mal les deux clans. Ça s'atténue.
On peut penser au jugement dans l'affaire de Mike Ward.
Exactement. C'est un très bel exemple. C'est un très, très bel exemple. Il y en a d'autres. Et c'est souvent le juge Wagner qui est un conservateur du Québec, en vérité, donc un conservateur modéré qui faisait les majorités d'un bord et de l'autre.
Mm-hmm.
Ça s'atténue depuis quelques mois. La Cour arrive plus souvent à des décisions à l'unanimité. Probablement que le juge Wagner réussit à rebâtir la cohésion au sein de la Cour. Mais je vois mal comment les juges associés à ce courant plus conservateur, un de leurs moteurs idéologiques ou de leur sensibilité ou de leur conviction, c'est l'idée qu'il faut faire preuve de retenue à l'endroit du politique. Donc, on sait qu'en Cour suprême, il y a un certain nombre de juges qui seront défavorables à l'argumentaire opposé à la dérogation.
Mm-hmm.
Après, en ce qui concerne les juges nommés plus récemment par Justin Trudeau dans un contexte où il savait que le dossier allait venir, on a probablement le contraste inverse. Donc, il faut s'attendre à une Cour divisée, et il faut voir laquelle des deux gangs va céder.
Oui.
Ou sinon, ça va être une décision avec des dissidences. Mais a priori, la décision de cour d'appel me semblait plus imprévisible que celle d'en Cour suprême.
Alors, à suivre, Patrick. D'ailleurs, ça veut dire combien de temps, là? On peut imaginer que la Cour suprême... D'abord, il faut que quelqu'un décide d'y aller.
Oui. Je dirais, là, dans un an, l'audition. Donc, un an, ça peut être avant Noël, un peu après Noël. Et ajoutons un autre 6 mois à un an pour la décision.
Ah oui, quand même.
Donc, quelque chose comme l'automne 2025 ou plutôt peut-être pour une décision.
Alors, juste en fin de mandat pour les caquistes, peut-être. Je retourne dans la politique. Professeur Patrick Taillon, très versé en droit constitutionnel, d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce midi, malgré ce vilain rhume. Allez vous reposer.
Oui, merci beaucoup.
Merci. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Rémi Villemur, de cette décision du point de vue plus politique? Il y a des... Et Frédéric Lapointe, vous êtes toujours là?
Oui.
Parfait. Merci d'être patient et d'être avec nous. On reprend notre discussion, Rémi Villemur. Plusieurs souverainistes, nationalistes ont misé sur les refus, les écueils, les échecs, les défaites que pourrait subir Québec dans la défense de la loi 21 pour mousser la cause de la souveraineté, de l'indépendance notamment, peut-être aussi plus largement de l'autonomisme québécois. Est-ce que c'est pas une forme de défaite, paradoxalement, pour eux aujourd'hui? Là, bon, ben, c'est une victoire sur toute la ligne. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut pas dire le méchant gouvernement des juges nous fait la barbe. Des juges canadiens, évidemment.
Oui, mais il y a personne depuis le début de cette histoire-là. Personne, j'entends, acteur sérieux qui soutient que c'est la décision de la Cour d'appel qui va déterminer l'issue de ce combat-là. Tout le monde le sait.
On attend la Cour suprême.
Ben, voilà, c'est comme Jean-François Lisée disait cette semaine, on est en deuxième période. Donc, il reste une troisième période. Il n'y aura pas de prolongation. Donc, on est peut-être, ou sinon, on est en troisième période, puis on s'en va en prolongation. Ça serait plus exact puisque c'est 1-1. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est dans l'entrevue avec Patrick Taillon, ça fait du bien de l'entendre d'un avocat spécialisé en droit constitutionnel, c'est qu'on réalise une bonne fois pour toutes qu'il n'y a pas grand-chose de juridique là-dedans. Tout est très politique. Hein? Et,
pas sûr que c'est rassurant, là, mais,
ben non, ben en fait,
il y a un espace de discrétion tellement grand sur des questions comme celle-là que forcément...
Oui, mais ils sont nommés par des élus, par des chefs d'État, des chefs de parti, et là, quand on y pense, les juges nommés par Stephen Harper, ce sont donc des juges qui ont été nommés avant 2015. En 2025, seront-ils encore là? Parce que là, on se dit, on est arrivé à une espèce de coalition. Le juge Wagner a bien tempéré ses troupes, c'est ce que j'ai compris. Là. Mais là, en 2015, seront-ils encore là? Qui va avoir
néanmoins,
le plus gros bout du bâton?
Rémi Lemur, la Cour d'appel, et c'est une particularité du fédéralisme canadien dont plusieurs ne sont pas fiers, ce sont des juges nommés par Ottawa. Aussi. Mm-hmm. Et puis, qui viennent de donner victoire sur toute la ligne à Québec.
Oui, mais l'interprétation de la loi 21 depuis le début, de part et d'autre, elle est munie d'arguments quand même assez solides, qu'on soit pour ou contre. Là. Mm-hmm. Donc là, on a eu une première lecture qui était défavorable à la loi 21, en tout cas d'une certaine façon, une lecture qui vient redresser les choses. On s'en va, normalement, on s'en va en Cour suprême. Là, il y a une espèce de suspense. Là. Peut-être qu'on n'y ira pas. C'était le souhait de Guillaume Rousseau. Moi, je pense qu'on y va. Ils ont du nerf, là, les anglophones de la commission scolaire. Là, on les écoutait cette semaine. Eux autres, que ça coûte
ils ont
10,
plus
20
que du
millions.
Nerf, hein? Ce sont des gens qui disent que le Québec, il faut le rappeler, hein, le patron dit a déjà déclaré que Québec, c'est pas une nation.
Il n'y a pas de langue commune
province,
au Québec.
C'est ça.
Il a rajouté ça cette semaine, c'était quand même assez incroyable.
Oui. Là, c'est incroyable quand on sait que c'est l'anglais, de toute façon.
Mais je comprends votre question. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour les nationalistes? Ben, écoutez, pour les nationalistes qui savent qu'on s'en va en Cour suprême, il faut juste arrêter. Il ne faut pas se réjouir. Puis il faut pas non plus. Moi, j'entendais du monde crier victoire cette semaine. Calmons-nous un petit peu. Là. La victoire pourrait être de très courte durée. Mais à quoi assiste-t-on sinon qu'au séparatisme des anglophones qui nous traitent de séparatistes depuis les années 60. Là, ils veulent être exclus par la loi 21. Ils disent, nous, on ne veut pas que ça s'applique à nous. Finalement, vous voulez
évoluer dans un autre
êtes-vous
cadre.
Êtes-vous des Québécois ou n'êtes-vous pas des Québécois? Là, c'est à vous de répondre. Là. Il semblerait que non. Mais moi, je ne me réjouis pas. C'est vrai que les nationalistes manquent soudainement un petit peu d'arguments. Là, j'écoutais des péquistes cette semaine qui c'était un petit peu difficile. On dirait qu'ils n'étaient pas prêts. Hein? Ils n'avaient pas préparé cet argumentaire-là.
Ils avaient vraiment
prévu. Le silence est parfois la meilleure option.
Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Lapointe? Au-delà de la stratégie politique des souverainistes ou des non-souverainistes, c'est une victoire pour le Québec, ça. Il faut que ce soit une bonne nouvelle, non?
Oui. Je pense même que la force de l'argumentation telle que souligné là, par le professeur Taillon, je ne serais pas surpris que la Cour suprême s'abstienne, étant donné qu'il ne s'agit pas vraiment de se prononcer sur le fond de l'affaire, à savoir si la loi 21 est raisonnable eu égard à la Charte des droits, mais simplement de constater ce qui est écrit dans la Constitution et que les acteurs, lors du rapatriement de la Constitution, avaient amplement discuté. Là, c'est pas une obscure clause de la Constitution américaine qui peut être interprétée 50 fois. Là. Tout le monde sait qu'il n'y aurait pas eu de Charte des droits accepté par les provinces, par les constituants, s'il n'y avait pas de clause de dérogation d'intégrer. Et le fédéral refusait la clause de dérogation précisément parce qu'elle permettait au Parlement de s'exclure. Et donc, en l'acceptant, l'esprit de la chose est un peu plus clair. Ce serait intéressant d'en rediscuter avec Frédéric Bérard, on en avait discuté par avance où il nous présentait l'argumentaire des gens qui allaient en appel. Mais pour moi, la Constitution est extrêmement claire. C'est une vérité de la palisse et je ne suis pas certain que la Cour suprême va vouloir faire ce débat.
Alors, pour nos auditeurs, Frédéric Bérard est notre ancien collègue à cette émission. Il était aussi dans ce dossier, d'ailleurs, comme Guillaume Rousseau. Qui est notre collègue aussi, c'est la victoire, là, on peut dire, du second contre le premier. Bérard est même cité dans un livre écrit par Frédéric Bérard et le professeur Beaulac, je crois, qui est cité dans le jugement, pour un passage cité pour être contredit, en somme, si je comprends bien, mais c'est complexe, hein? Vous irez lire, vous me donnerez votre avis, Frédéric Lapointe, Rémi Villemur, là-dessus. Vous, Frédéric Lapointe, qu'est-ce que vous en pensez de cet argument qui disparaît soudainement pour les souverainistes? Là, on ne peut pas dire, ah, voyez encore les tribunaux qui nous empêchent d'être nous-mêmes dans le cadre canadien.
Oui, mais on peut s'éviter d'être assujetti complètement à la Charte des droits seulement à travers un vote du Parlement à renouveler aux 5 ans. Donc là, les partisans de la loi 21 peuvent faire les fanfarons ou être étonnés de leur victoire, mais la réalité, c'est que dès qu'il y aura un gouvernement qui, sans même abroger la loi, c'est simplement refuser de renouveler la clause de dérogation, mais on est reparti là pour un autre tour de roue vers les tribunaux. Donc, mine de rien, cette disposition, la charte et la dérogation, fait en sorte que le débat peut se poursuivre pour des décennies. Là, il n'y a pas d'apaisement, il n'y a pas de choses jugées en raison de ce mécanisme qui, aujourd'hui, nous sert, mais du moment qu'il y aura un gouvernement qui, sans même avoir plaidé le fait qu'il veut abroger la loi 21, laissera simplement les tribunaux faire le travail, on va être reparti pour un quatrième round, là, une quatrième période.
Qu'est-ce que vous pensez, Rémi Villemur, de la réaction du gouvernement Trudeau à la Chambre des communes? L'annonce du jugement était à peine faite. Il était clairement impossible d'avoir lu 300 pages et d'avoir compris ce qu'il y avait là-dedans. Et tout de suite, les libéraux d'Ottawa ont dit « Nous allons accompagner quiconque ira en Cour suprême pour continuer le combat. » C'est significatif, non?
C'est pugnace. Enfin, on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir de principe. Ils n'ont juste pas les mêmes que les nôtres. Ils vont au combat et pendant ce temps-là, Pierre Poilievre, et là, j'aurais voulu un effet sonore,
oui,
de criquet, silence radio. C'est-à-dire, il n'y a rien qui se passe. Et on dirait qu'ils ont bien compris qu'ils ne sont pas obligés de s'exprimer. C'est pour ça que je dis que le silence des péquistes aurait peut-être été la meilleure option. On n'a même pas entendu, ou à peu près pas, le gouvernement de la CAQ parler. J'ai vu une publication de François Legault sur les réseaux sociaux.
Félicité d'une grande victoire pour les Québécois.
Je veux bien, mais je pense que tout le monde a compris qu'on s'en va en Cour suprême. C'est ça le problème, en fait. Et vous savez, vous posez une question intéressante sur la question de l'argument soudainement vide du côté des souverainistes. Vous savez, c'est surtout un argument.
Comme elle va se poser par
plusieurs. Oui, c'est pas vous qui la posiez en bonne forme, mais c'est-à-dire que moi, je connais à peu près personne qui est souverainiste pour cette raison-là, pour la raison simple que nos lois sont compromises lorsqu'elles viennent à se buter à la Cour suprême. Les souverainistes ont 150 000 arguments pour faire la souveraineté du Québec, quand même bien qu'on en ait perdu un. En attendant un jugement qui risque d'être défavorable de la Cour suprême, qu'est-ce que ça nous fait? Il nous en reste 149 999.
Mais là, il vous répondrait que, vous savez, on veut aller chercher ceux qui sont moins motivés, moins profondément convaincus, avec des arguments comme celui-là. Comme par exemple, au moment de l'échec de l'accord du lac Meech, il y a eu une montée en flèche du sentiment indépendantiste au Québec, là, pour passer même la barre des 60 %. Mm-hmm. Alors, c'est donc dire qu'il y en a chez qui ça marche, en tout cas.
Oui,
Le fait de dire qu'on est maltraité dans le Canada.
C'est évident qu'un argument de moins, c'est moins bon qu'un argument de plus.
De plus.
Mais, écoutez, il suffit de refaire la pédagogie de la loi 101 pour se rendre compte que la loi 101 a été charcutée pour les mêmes raisons que la loi 21 risque encore de l'être.
Et puis dans ce cas-là, s'ils sont créatifs, ils n'ont qu'à dire ben, on ne devrait pas être dans un pays où on est obligé de se battre pour nos lois et attendre avec dans le suspense et le popcorn à chaque...
Vous venez de me voler les mots de la bouche.
Je vous alliez le dire, je le savais, mais je voulais avoir l'air intelligent avant vous.
C'est réussi.
Rémi Villemur, ben, c'est gentil. Je n'avais pas cette ambition quand même, n'exagérons rien. Frédéric Lapointe, sur la réaction qui ne s'est pas fait attendre du gouvernement Trudeau, qu'est-ce que vous pensez?
Ben, je trouve que c'est celle de David Lametti, l'ex-ministre de la Justice, qui est la plus intéressante. Il avançait l'idée qu'il faudrait, et en cela il est d'accord avec le gouvernement, qu'il faudrait que la clause de non-obstant ne soit utilisée qu'après que les tribunaux se soient prononcés sur le fond de l'affaire.
Réexpliquons à nos auditeurs, là, le gouvernement du Québec, depuis longtemps, a l'habitude d'avoir recours à cette clause ou ce qu'on appelle la disposition de dérogation, c'est de façon préventive. On la met tout de suite dans la loi, ce qui fait que le débat est tranché dès le départ. Et au Canada, plusieurs disent, mais non, ce n'est pas correct. Il faudrait pouvoir laisser au juge le soin de se prononcer d'abord, puis ensuite vous vous protégez avec la clause, hein, comme pour vous faire mal paraître, en somme, peut-être un peu plus, pour que ce soit politiquement plus coûteux d'avoir recours à cette clause. Je vous ai interrompu, allez-y.
Exact. C'est en plein ça, mais si mon souvenir est bon, David Lametti déplorait par avance qu'il faudrait un amendement constitutionnel pour s'en assurer. Je pense que du côté du Parti libéral du Canada, dire qu'ils vont accompagner les gens en Cour suprême, ça tient de la posture politique. C'est un peu un coup forcé pour signaler de quel bord ils se trouvent. Mais je pense qu'ils ont compris qu'ils ont perdu la partie parce que les constitutions sont claires et les conséquences de réécrire la Constitution sur le banc des juges seraient trop importantes dans l'état actuel de la politique québécoise. Si la question nationale était réglée, si l'indépendance était à 15% et si le Parti québécois n'était pas en tête des sondages, peut-être raisonnerait-il autrement. Mais je vous soumets que les juges, lorsqu'ils vont se pencher sur cette question-là, parce qu'ils sont politiques, ils vont faire preuve d'encore plus de timidité avant de réécrire la Constitution sur le banc.
Restons, Rémi Villemur, dans les affaires outaouaises. Donc, finalement, on attendait cette décision. Les visas pour les demandeurs d'asile, pour les Mexicains, en fait, seront de nouveau nécessaires. Et là, on a entendu les atermoiements, les circonvolutions, les difficultés du ministre Miller à accepter, à expliquer pourquoi il accepte, à expliquer ce qui sera fait par la suite. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que c'était, au fond, cette histoire-là d'enlever les visas pour les Mexicains, une décision idéologique, hein? Justement, on parlait de posturalisme à l'instant. C'était une posture pour le gouvernement Trudeau pour montrer qu'il est ouvert, multiculturel et tout. Puis il aura fallu, je pense, 7 ans avant qu'on voit la lumière et puis qu'on réalise que ce que le gouvernement Harper appelait une crise à l'origine, qui a mené à cette décision d'instaurer le visa pour les Mexicains, bien aujourd'hui, c'est 3 fois ça. Hein. Il y a, je pense, 25 000 demandeurs. C'était 9 000 à l'époque. On n'est pas loin de 3 fois. Donc, on a juste recréé le même problème et en pire. Est-ce que c'est pas curieux d'un gouvernement qui dit qu'il faut se fier sur la science?
En fait, vous êtes touché exactement au cœur du problème. C'est idéologique. De la même façon que lorsqu'on a décidé de fermer Roxham, on savait très bien au fédéral qu'il allait s'ouvrir une autre voie, une voie alternative à l'entrée de ces réfugiés-là.
On y a même œuvré d'une certaine façon.
Et je pense qu'à Québec aussi, parce que là, je serais en train de vous dire qu'ils étaient un petit peu plus imbéciles à Québec qu'à Ottawa, c'est pas vrai. À Québec aussi, ils savaient très bien que là, il fallait, pour des raisons médiatiques, j'ai envie de dire, fermer Roxham. On savait très bien qu'ils allaient arriver d'une autre façon. Ils sont arrivés par avion. Donc, on a reçu d'autres sortes de gens, des gens un peu plus fortunés, j'imagine, en tout cas des gens qui ont de l'argent pour prendre l'avion. C'est 25%, je pense, hein, les réfugiés mexicains de la somme des réfugiés qu'on reçoit au Québec. Donc, c'est quand même une très bonne nouvelle, dans la mesure où ils vont désormais devoir se munir d'un visa. Mais là, après, visa, c'est...
Alors, il y a toutes sortes d'exceptions, hein, quand même.
Oui, il y a des exceptions. Puis quand on regarde ce que c'est un visa, ben, c'est la possibilité de venir ici pendant 10 ans à coût de 6 mois. Donc, c'est ça l'affaire. Donc, mais là, ça veut dire qu'il faut réussir à trouver ces gens-là puis à leur demander de s'en aller. Puis j'aimerais ça avoir des chiffres sur le...
Ce qui n'est pas vraiment faisable.
Ben oui, sans partir à la chasse aux réfugiés, ouais. Ce que nous ne verrons jamais au Canada et même pas au Québec non plus.
Je vais vous suggérer des expressions à M. Clich-Rivard de Québec solidaire. La chasse aux réfugiés.
Ouais, c'est mon côté Mulroney.
Je vois bien dire ça, Jean. Oui, c'est ça. Vous faites, vous conciliez, vous, les, toutes les parties. Frédéric Lapointe, est-ce que vous pensez que le fédéral a l'air fou là-dedans ou il sauve la face au contraire? Comment voyez-vous ça?
Ah, Mark Miller, c'est le ministre fédéral qui a le plus l'air fou depuis de nombreuses années. Je pense qu'il est dans la course à la lanterne rouge de l'ensemble de ce gouvernement qui est sur le bord d'être mis à la porte. C'est pas peu dire. Hein. C'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte, là, comme dirait une ex-co-chef là, de Québec solidaire. En cette matière-là, sur les visas, ils ont attendu beaucoup trop longtemps. Ça ressemble à une mesure du type non, nous n'allons pas flancher sur la taxe carbone, mais tiens, on va jeter du lest là, dans les maritimes là, pour le mazout parce que la population. À un moment donné, quand on commence à céder, ben le reste va suivre. Et c'est ce qui va arriver au Parti libéral. Il donne raison. Et grand bien nous fasse, là. Il donne raison à ceux qui plaidaient l'inconséquence de ce gouvernement, l'irresponsabilité de ce gouvernement. Et Mark Miller, sa dernière en date, c'est de dire, le gouvernement du Québec se trompe quand il dit qu'il y a 160 000 réfugiés au Québec. En fait, ils ne sont pas 160 000. Ils sont 90 000 demandeurs, 30 000 acceptés, 30 000 dans la nature, puis 15 000 qui sont en transit. Quand on additionne tous les chiffres, on arrive à 160 000.
Oui.
Non, mais il faut vraiment vouloir être un candidat au poste de ministre qui dit le plus n'importe quoi au cours des dernières années. Là.
Oui, pour les gens qui n'ont pas compris, ça veut dire c'est parce qu'il exclut les gens qui ne sont pas acceptés en sous-entendant qu'ils ne sont pas sur le territoire.
Ils n'existent pas. Ils sont dans les airs.
Mark Miller, c'est un ami de longue date de Justin Trudeau. Ils ont été à Brébeuf au Cégep.
Même
ensemble.
Rigueur intellectuelle. Hein?
Mais je pense qu'ils vont couler ensemble.
Oh, on est terrible. Que... Mais justement, parlons-en, Rémi Villemur. On termine là-dessus. Il reste, je pense, une ou deux minutes. Une minute. Sondage cette semaine. Les conservateurs passent devant les libéraux fédéraux, même au Québec. Et dans les villes aussi. Et là, ça, c'est vrai, pas seulement au Québec. Ça sent... Est-ce qu'on peut dire que ça sent la fin, là, vraiment? Il y a une volonté de changement, puis rendu là, à moins que Pierre Poilievre fasse une gaffe gigantesque, il sera le prochain premier ministre du Canada. Est-ce qu'on peut aller jusque-là maintenant?
Ben, moi, je le nie depuis le début et là, je vais vous avouer que je commence à être pas mal certain que Pierre Poilievre va former le prochain gouvernement. Grande primeur sur les ondes de Radio-VM. Non, sans blague, c'est que là, on est à un an de l'élection. J'attendais la symbolique de l'année dernière, de l'année restante et la côte est trop difficile à remonter. Pour ce qui est du succès des conservateurs au Québec, je serais assez prudent parce que d'autres sondages indiquent le contraire. Enfin, ils indiquent qu'ils ne sont pas...
S'il y a quelque chose, là, c'est peut-être le début de quelque chose.
Oui, le bloc est premier, selon pas mal tous les indicateurs qu'on a. Exactement. Et je n'imagine pas Pierre Poilievre pogné avec le Québec.
Au Québec, hein? on ne sent pas pour l'instant le feu, l'électricité passer. Frédéric Lapointe, en quelques secondes là-dessus.
Ah ben, les libéraux échappent les finances publiques, ils échappent l'inflation, ils l'échappent sur la croissance de la population, sur tous les éléments qui sont structurels et qui ont un effet sur la vie des gens, ils l'échappent. Alors, à un moment donné, la population a raison de se demander pour qui est-ce qu'ils travaillent.
Oui, est-ce que c'est pas aussi, à un moment donné, le temps qui a fait son œuvre, ça fait un bon moment qu'ils sont là, les libéraux, la volonté de changement prend le dessus sur tout, non?
Ah oui, c'est ce qui rend inéluctable leur défaite, mais disons qu'ils accélèrent le mouvement par leurs propres mauvaises décisions.
Rémi Villemur, il nous reste à peu près 20 secondes sur Pierre Poilievre. Vous ne l'imaginez pas faire recette au Québec. Pourquoi?
Ben, pour la simple et unique raison que sur les grands enjeux, il ne s'est pas encore prononcé. Donc, le succès qu'on lui prête en ce moment, qui est ultra hypothétique, il risque d'être ébranlé par la nécessité un jour qui s'en vient où il va devoir s'exprimer sur l'enjeu migratoire, sur la loi 21. Vous savez, dans un débat...
Est-ce que ça traduit, d'après vous, un défaut de connexion avec le Québec?
Ben, je pense qu'il a de la difficulté à comprendre le Québec comme tous les fédéralistes depuis 1867. Donc là, il prend le moment, il a la possibilité de prendre son temps en ce moment, mais dans un débat des chefs, talonné par Yves-François Blanchet, qui lui dit « Votre position sur la loi 21 de la Cour suprême, votre position sur la noyade démographique, on veut l'entendre, il ne pourra pas s'échapper. »
Intéressant. À suivre. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Merci beaucoup, Frédéric Lapointe. On salue Patrick Taillon également, qui était avec nous pendant cette émission. Et merci à Lysandre Duplé pour la mise en onde, toujours fluide et parfaite. Chers auditeurs, merci d'abord et avant tout, et surtout à vous d'être si nombreux à l'écoute. Et rendez-vous samedi prochain.